Rencontre avec Matthieu Ricard. Il est moine bouddhiste, photographe, auteur et traducteur officiel du Dalai Lama. Il vit et travaille dans la région himalayenne depuis 40 ans. Il était invité le 25 avril à Monaco pour donner une conférence intitulée « L'argent fait-il le bonheur ?» Organisé dans le cadre du 10e forum de la CIFA, une ONG qui réunit économistes et conseillers indépendants pour faire un point sur la moralisation de la finance. Avons-nous, occidentaux, plus de mal que les autres à se détacher des biens matériels et d'un certain confort illusoire? C'est la question qu'Evelyne Tonelli et Martin de Kerimel pour Epi Communication ont posée à Matthieu Ricard.
Du matin au soir, c'est notre esprit qui fait l'expérience des choses extérieures, qui traduit en bien-être ou en mal-être les conditions extérieures. Je pourrais être dans un petit paradis et complètement déprimé. Et alors, à quoi ça sert d'être dans un petit paradis où je peux être dans des conditions en apparence défavorables et garder ma joie de vivre et mon sens d'une direction dans l'existence? Donc finalement, notre état d'esprit éclipse les conditions extérieures. C'est pas seulement en Orient, c'est partout. Chaque être humain est comme ça. Donc, c'est absolument pas l'idée qu'il faut négliger l'amélioration des conditions extérieures, bien sûr. Il faut que chaque mère puisse nourrir son enfant, que chaque personne puisse avoir accès à l'éducation dans un pays libre, en paix, etc. Mais ceci dit, totalement négliger les conditions intérieures, c'est une absurdité parce que c'est celles qui, en fin de compte, vont déterminer la qualité de votre existence. L'idée de reconnaître, d'identifier les conditions extérieures qui favorisent l'épanouissement du bien-être et peu à peu de les cultiver et puis d'éliminer les facteurs qui, au contraire, détruisent notre bonheur et celui des autres, comme la haine, l'attachement, etc., c'est une façon de procéder qui s'adresse à tout être humain.
Comment expliquez-vous le fait que ce mode de pensée s'impose finalement plus difficilement ici, où on a déjà
un bien-être matériel? C'est vrai qu'il y a eu un peu ce mirage que si on a tout pour être heureux, on sera heureux. Mm-hmm. Alors on voit des gens qui sont très riches, qui sont très beaux, qui sont très forts, qui sont très machins, etc., etc. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, on se dit mais qu'est-ce qui va pas avec ce type-là? Si j'avais tout ça, je serais heureux. Puis voilà, on s'aperçoit à un moment donné que c'est autre chose. Bon, très bien, si on a des bonnes conditions, tant mieux. Si on n'en a pas, c'est pas trop grave. Mais surtout, ce qui compte, c'est la façon dont on vit l'existence. Et c'est l'amitié, c'est l'altruisme, c'est la paix intérieure, c'est plein d'autres choses qui font qu'on a en soi les ressources nécessaires pour gérer les hauts et les bas de l'existence. Tandis que si on est totalement dépendant que les qualités extérieures soient bonnes, eh bien évidemment, elles changent du jour au lendemain. Alors, après, on surfe la vague, de temps en temps, on tape sur le rocher et on ne sait pas trop pourquoi, et on est déprimé ou euphorique d'un jour à l'autre.
Il y a une certaine volonté de constance dans votre...
Constance, c'est une manière d'être. Ce n'est pas qu'on est constant dans le sens qu'on est à plat, dans une espèce d'état amorphe. C'est vraiment une manière d'être qui fait pour tomber sur vos pattes, parce que justement, finalement, ce qui compte le plus, c'est votre manière d'être.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des changements qu'il faudrait instruire aujourd'hui au 21e siècle? Vous parlez de confiance, d'altruisme, de respect de l'environnement. On voit bien qu'en France aujourd'hui, les résultats des élections nous prouvent que ce ne sont pas les valeurs qui sont primordiales pour les Européens de l'Ouest.
Le problème, c'est souvent que, si vous voulez, tant que ça ne tape pas sur la fibre de l'égoïsme, les gens ne réagissent pas. C'est vrai que c'est difficile. Ceci dit, les cultures évoluent. Moi, je mise beaucoup sur cette idée que, vous voyez, l'attitude vis-à-vis de la guerre a complètement changé entre le début du XXe siècle et maintenant. Vis-à-vis, par exemple, je ne sais pas, de l'exercice physique, maintenant on sait qu'il faut pédaler sur une bicyclette d'appartement pour être en bonne santé, même si elle va nulle part. On sait qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas avant et qu'on commence à adopter quand même. Moi, quand j'avais 16 ans, le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui était le livre fondateur de l'écologie et du mouvement de l'environnement, à cause des pesticides, etc. Moi, j'étais ornithologiste, ça intéressait une bande de passionnés de qu'on appelle la protection de la nature à l'époque. Et le monde s'en foutait intégralement. Genre, on ne peut pas dire que l'environnement n'est pas au top de nos priorités, même si ça ne passe pas encore, c'est quand même un sujet incontournable. Donc, en 30 ans, ça a passé d'une poignée de passionnés à un débat mondial. Donc ça prend du temps. Regardez, ça fait 30 ans qu'on sait que le tabac tue. Il a fallu combien de temps pour mettre ça en œuvre dans les politiques? Les évolutions prennent un peu de temps. Mais enfin, 30 ans, c'est pas si énorme que ça. On peut pas espérer que du jour au lendemain, ça va changer, mais les idées changent. Et le changement d'idées, c'est ce qui fait que les cultures changent. Quand les cultures changent, les individus changent et ils contribuent mutuellement au changement. Il y a un mouvement et je pense que cette idée de davantage de coopération, de solidarité, de la montée des ONG dans le monde, c'est un signe qui était très, n'existait pas au début du XXe siècle. Il y a des centaines de milliers d'ONG. Alors, elles ne font pas toutes le travail de la même qualité, mais malgré tout, elles font un travail extraordinaire, complément totalement celui de des gouvernements.
Et on a besoin de cette force de communication, finalement.
La coopération, la solidarité font partie de la nature humaine. Au début des chasseurs-cueilleurs, je veux dire, la coopération est essentielle à la survie. Et dans les villes, on devrait se dire que ça devrait être beaucoup plus basé sur la coopération que sur la compétition. Ça n'a pas de sens quand on vit ensemble.
À quand le calcul du bonheur intérieur brut à Monaco, en France ?
C'est rien, il faudrait faire un sondage dans la population. Mais je veux dire, l'idée qu'on peut maintenant le mesurer et qu'on doit en tenir compte dans les décisions politiques, c'est quelque chose de nouveau, mais qui prend maintenant pied dans les préoccupations, parce que finalement, ce qui détermine si les gens sont contents ou pas. Et ce n'est pas simplement un sous-produit de la croissance, c'est une politique qui doit être poursuivie en elle-même, pour elle-même, parce qu'elle a des objectifs qui peuvent être différents de celui de la croissance.
Est-ce qu'on serait capable, le produit intérieur brut finalement est calculé de la même façon un peu partout dans le monde ? Alors, est-ce que le bonheur peut être calculé de la même façon partout dans le monde ?
C'est quand même une science qui encore est en évolution, c'est-à-dire que tous n'ont pas les mêmes questionnaires, les mêmes critères. En reboutant justement, ou qui ont mis ça comme politique nationale, ils ont des questionnaires beaucoup plus sophistiqués, ils s'adressent beaucoup à l'expérience subjective et pas seulement vous êtes content de transport en commun ou n'importe quoi. Mais par exemple, combien de fois avez-vous ressenti la jalousie dans les derniers 15 jours ? Quelle est la qualité de votre sommeil ? Oui, vous riez, mais c'est sympathique. Mais n'empêche que, finalement, si vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous êtes jaloux du matin au soir, votre vie est un enfer.
On n'est pas heureux.
Donc voilà, donc en mesurant ça, on a vraiment quelque chose qui évalue la qualité de vie. Et donc maintenant, ça va plus dans ce sens-là, d'incorporer, et l'OCDE a fait un sondage justement sur la qualité de vie en Europe, qui tient compte plus, davantage maintenant, des critères subjectifs.
Qu'est-ce que vous attendez de cette confrontation avec le monde financier que vous allez mener pendant quelques...
C'est pas une confrontation, c'est de
c'est
trouver...
Cet échange,
pour moi, c'est plutôt, je ne vais pas être là tout le temps, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre comment on peut avoir un système qui n'est pas basé sur les vieux concepts que l'altruisme n'a pas de place dans l'économie, mais qu'au contraire, vu que les gens ont l'altruisme en eux, que si on l'exclut des systèmes économiques, on a des systèmes qui sont réductionnistes et qui ne reflètent pas la réalité humaine. Et donc voilà, il y a des économistes modernes qui travaillent à ça, notamment Ernst Fehr à Zurich, et qui incorpore vraiment ça dans des modèles économiques. J'espère qu'il aura le prix Nobel bientôt, parce que ça faudra plus d'écho à ses idées. Mais si vous voulez, c'est quelque chose comme Stiglitz ou Daniel Kahneman prennent très au sérieux cette idée du bonheur national brut. On sait que les gens qui réussissent mieux dans la vie s'ils ont un quotient d'intelligence émotionnelle réussissent mieux que les gens qui ont un quotient intellectuel élevé. Pourquoi ne pas en tenir compte dans l'éducation ? Ils le font au Canada. Au Canada, il y a des cours d'intelligence émotionnelle dans toute la Colombie-Britannique. C'est fait partie du curriculum de la classe. Donc ça a été montré très bien. Et puis ça, au point de vue clinique aussi, alors au niveau de santé, centaines d'études maintenant qui montrent que, par exemple, toutes les techniques de réduction du stress par la pleine conscience, ce qui a été lancé par John Kabat-Zinn, a des effets excellents sur toutes sortes d'aspects de la santé, de la récupération après des opérations chirurgicales, etc. etc. Donc ça, c'est une chose qui commence à se répandre aussi en Europe occidentale, et tant mieux.
L'argent fait-il le bonheur ? À en croire Mathieu Ricard, oui, il peut faire le bonheur si on le donne.